Et vous savez que depuis le début de l'année, on s'est donné un thème directeur qu'on a intitulé « Les uns les autres ». On avait vu que dans la Bible, il y avait un certain nombre de passages qui nous encourageaient à partager des choses les uns avec les autres. Et la Bible nous dit qu'on a besoin les uns des autres pour grandir, pour s'édifier, et qu'on ne pouvait pas faire l'économie de l'Église. On ne pouvait pas faire l'économie des relations avec nos frères, avec nos sœurs, avec les chrétiens et les chrétiennes qui nous entourent pour même grandir personnellement. Grandir spirituellement. Et on veut aussi être à l'écoute des questions que vous vous posez. Et c'est pour ça qu'on vous avait donné des feuilles en début d'année pour vous donner la possibilité de nous dire quel thème vous voulez qu'on traite ensemble. Et avec les leaders, en dépouillant les questions qui ont été posées, on s'est aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre de questions qui touchaient à tout ce qui concernait la constance dans la vie chrétienne. Avoir une vie de prière constante, lire la Bible d'une façon régulière, comment faire pour avoir cette régularité, pour grandir, pour aller plus loin dans la foi. Comme si, je pense que les personnes qui, sans doute, posaient ces questions, sentaient comme un manque, se disaient, bon, ben voilà, voilà ce que je vis, mais certainement que je peux aller plus loin. Je peux aller plus loin dans ma vie de prière, je peux aller plus loin dans la lecture de la Bible, je peux aller plus loin dans mon engagement. Il y a même des questions qui touchaient autour de recevoir des autres, d'avoir des référents pour grandir aussi dans la vie spirituelle. Et ce qu'on a décidé de faire pour les samedis qui arrivent, c'est de traiter ces thèmes-là. C'est d'essayer de vous donner des possibilités, en s'appuyant sur la Bible, pour trouver ou aller vers cette constance, aller vers cette régularité, aller vers cette profondeur spirituelle que vous recherchez. Alors ce soir, je vais vous donner trois conseils, deux conseils assez pratiques, et puis un conseil qui, à mon sens, est vraiment la clé de tout. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez trouver cette régularité, si vous voulez en quelque sorte adopter une discipline de vie personnelle, parce que finalement c'est à ça que ça revient, ça va être le troisième point qui va être essentiel. Premier conseil que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est avoir de bons exemples à imiter. Je vais prendre l'exemple d'un roi en particulier, un roi d'Israël, dont il est question dans l'Ancien Testament. Et vous savez que dans l'histoire d'Israël, il y a deux grands rois qui ont marqué les esprits. Il y a David, le roi David, je pense que c'est parmi les plus connus, sinon le plus connu des rois d'Israël. Et puis vous avez un autre roi aussi qui a laissé un souvenir assez particulier, assez fort, c'est Salomon, le fils de David. David et Salomon. Ils ont toujours été des références pour les autres rois qui ont suivi, pour le peuple d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été des références? David, il a une histoire absolument extraordinaire. Il a un parcours qui est particulier. Souvenez-vous qu'au départ, David, c'est un berger. Un jeune berger. Quand l'histoire de David commence, il est tout jeune. C'est un jeune homme, un jeune homme beau. Et courageux, la Bible nous dit qu'il était blond, donc il avait un physique plutôt agréable. Il était courageux, il gardait les moutons tout seul dans la montagne, et puis quand il y a des ours qui venaient attaquer les moutons, il sortait sa fronde et il défendait ses brebis, ses moutons. Et de berger qu'il était, il est devenu roi. Déjà, c'est un destin, une destinée absolument extraordinaire. Il a affronté d'énormes difficultés dans sa vie. Il a subi l'opposition de Saül. Il a aussi remporté de grandes victoires militaires contre les ennemis d'Israël. C'est lui qui a conquis Jérusalem et qui a fait de Jérusalem la capitale du royaume d'Israël. Alors c'est vrai que David, dans son parcours, tout n'est pas clair, tout n'est pas net. Il a aussi commis des erreurs, il a commis des fautes. La plus connue étant celle qui a été évoquée tout à l'heure par Florine, il a commis l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, qu'il a mis en situation pour mourir et pour prendre sa femme. Mais David, c'est quelqu'un qui a toujours été authentique, sincère et honnête. Et quand il a commis des fautes, il a su les regretter. Il a su reconnaître qu'il avait mal fait et demander pardon à Dieu. Il a toujours eu confiance en Dieu. Quand vous voyez toutes les épreuves qu'il a pu traverser, il a été poursuivi par Saül, parce que normalement c'est lui qui devait devenir le roi après Saül, mais Saül, il n'acceptait pas ça. Donc il a tout fait pour essayer de le tuer. Il a affronté ce genre d'épreuves. Quand il est devenu roi, il a été détrôné par son fils, son propre fils, Absalom. Et dans toutes les épreuves auxquelles il a dû faire face, toujours, il a manifesté sa confiance en Dieu. Il n'a jamais perdu sa confiance en Dieu. Et c'est quelqu'un qui a toujours célébré la fidélité de Dieu, la justice de Dieu. Parce qu'il y a un grand nombre de psaumes qui ont été rédigés par David. Et là, on voit le cœur qui manifeste à l'égard de Dieu. Ça, c'est David. Et puis, vous avez Salomon. Salomon, c'est un roi qui est connu pour son immense richesse. Il a été encore plus puissant que David, mais aussi pour sa grande sagesse. Salomon, c'est le roi sage par excellence. Il est connu pour les décisions justes qu'il prenait. Il est connu aussi pour sa grande culture. Il nous est dit dans la Bible que c'est un roi qui savait énormément de choses, qu'il avait rédigé beaucoup d'énigmes. Il savait tellement de choses qu'il faisait des devinettes. Pour, quand la reine de Saba elle est venue, il a raconté plein de trucs comme ça. Donc c'était une façon à l'époque de manifester sa sagesse et sa connaissance. Salomon, c'est celui qui a fait construire le temple de Jérusalem, une construction magnifique pour honorer Dieu en l'honneur de Dieu. Mais le problème, c'est que Salomon n'a pas été fidèle à Dieu jusqu'au bout. Et c'est vraiment chagrinant de voir comment se termine le parcours de Salomon. Pourquoi ? Parce que Salomon, du fait de sa puissance, il a fait des alliances avec tous les peuples qui étaient aux alentours du peuple d'Israël. Et les alliances, comment on les faisait à cette époque-là ? On épousait la fille du roi. Et lui, il a fait alliance avec tous les peuples qui étaient autour. Donc, il a épousé plein de filles de rois, plein de princesses. Alors, on a un nombre incalculable de femmes et de concubines qui nous est donné dans le texte biblique. Sauf que ces femmes-là, lorsqu'elles passaient une alliance et qu'elles venaient s'installer en Israël, qu'elles venaient s'installer à Jérusalem, dans leur bagage, elles amenaient aussi les divinités de leur nation, les divinités de leur pays. Et quelque part, c'était dans le contrat. C'est-à-dire, si tu t'allies avec moi, le roi de la nation d'un côté, si tu t'allies avec moi, il faudra aussi que tu reconnaisses mes dieux. Et c'était le problème, parce qu'il y avait donc des dieux, des idoles, des dieux étrangers qui étaient installés à Jérusalem. Et la Bible nous dit que Salomon a fait construire des lieux de culte sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est une colline qui se trouve juste en face de Jérusalem. Et là, il a fait construire des sanctuaires dédié à Astarté, à Moloch et à Kemosh. Kemosh, c'est le nom des divinités étrangères qui sont venues avec les femmes de Salomon. Il faut toujours se souvenir quand même que ces cultes-là étaient très particuliers. Par exemple, Astarté, le culte d'Astarté, prévoyait la prostitution sacrée. Ça veut dire que les prêtres et les prêtresses qui étaient chargés d'honorer Astarté se livraient à la prostitution. Pour honorer Astarté, il fallait venir coucher avec les prêtres et les prêtresses de cette déesse. Parce que c'était la déesse de la fécondité, de l'abondance. Et c'était une manière là d'invoquer Astarté. C'est quand même assez particulier. Moloch et Kemosh, ce sont des dieux qui demandaient qu'on leur sacrifie des enfants. C'était terrible. J'ai entendu un pasteur expliquer que dans ces rites-là, lorsque les parents offraient leur enfant en sacrifice à Moloch, il fallait que les parents soient impassibles. Ils ne devaient manifester aucune émotion, aucun sentiment, sinon le sacrifice était déclaré nul. Vous imaginez quand même des divinités qui exigeaient de telles choses. Là, la prostitution, les sacrifices d'enfants, et c'était ces dieux-là qui étaient installés à Jérusalem et à côté de Jérusalem. Et les différents choix qui ont été adoptés par David et par Salomon vont avoir des répercussions qui vont être très importantes dans l'histoire d'Israël. David va être un bon exemple et Salomon, lui, va être un mauvais exemple. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que quand on lit les livres historiques, on voit que la majorité des rois qui vont succéder à David et à Salomon vont plutôt imiter Salomon. Ils vont plutôt avoir tendance à se tourner vers des dieux étrangers, vers des idoles. Très peu vont imiter David. Il y en a seulement 4 sur à peu près, alors si je ne me trompe pas, il y a à peu près 500 ans qui vont s'écouler entre David et puis le dernier roi d'Israël, avant qu'il soit déporté par les Babyloniens. Il ne va y en avoir que 4 qui vont être fidèles à Dieu. Josaphat, Joas, Ézéchias et Josias. 4. Et j'aimerais bien qu'on parle ensemble de Josias ce soir. Alors Josias, il a eu un grand-père terrible. Son grand-père s'appelait Manassé. Et Manassé, parmi les rois idolâtres, parmi les rois infidèles, c'était certainement un des pires, peut-être même le pire. Lui-même a sacrifié l'un de ses fils à Moloch. Bon, déjà, quand même, il a fait ce pas-là. Il a installé une statue d'Astarté directement dans le temple de Jérusalem. Vous imaginez le blasphème que ça représente. Ce temple était consacré au culte du seul Dieu, du seul vrai Dieu. Et lui, il met une statue dans le temple. Il a installé des autels en l'honneur des dieux étrangers dans les deux cours du temple et partout dans son royaume. Et les prêtres qui devaient célébrer le culte du temple à Jérusalem étaient consacrés au culte qui était rendu dans ces lieux, ce qu'on appelle, ce que la Bible appelle les hauts lieux. Et avec l'exemple de Manassé, jamais le peuple n'est allé aussi loin dans l'idolâtrie et dans l'immoralité. Vous savez, de toute façon, ça fonctionne comme ça. Si celui qui est en haut adopte un mauvais comportement, il va être l'exemple pour tout le reste. Donc avec Manassé, jamais le peuple d'Israël n'est allé aussi loin. Manassé a régné pendant 55 ans, un règne qui est quand même très long. Son fils, qui s'appelait Amon, n'a régné que 2 ans. Au bout de 2 ans de règne, il a été assassiné. Un climat politique assez violent, assez délétère. Et c'est son petit-fils, Josias, qui monte ensuite sur le trône. Il arrive sur le trône, il a 8 ans, Josias. Il arrive tout petit. Et voilà comment Josias est présenté. On va lire ça, c'est dans le deuxième livre des rois. L'histoire de Josias est racontée au chapitre 22 et au chapitre 23. Et en 2 Rois 22:2, il est dit « Josias fit ce qui plaît au Seigneur. Il se conduisit tout comme son ancêtre David, sans jamais s'écarter de son exemple. » Et si on va un peu plus loin, chapitre 23, versets 12 et 13, « Il démolit les autels que les rois de Juda avaient dressés sur le toit plat des appartements d'Akaz, un ancien roi, ainsi que ceux dressés par Manassé dans les deux cours du temple. Il les fit mettre en pièces sur place et fit jeter les débris, dans la vallée du Cédron. Il rendit inutilisables les lieux sacrés, les hauts lieux, les temples que le roi Salomon avait installés au sud du mont des Oliviers, la colline qui fait face à Jérusalem. Ces lieux sacrés étaient dédiés à Astarté, l'ignoble déesse des Sidoniens, à Kemosh, l'ignoble dieu des Moabites, et à Milcom, ou Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. » Sa référence à Josias, son modèle, ce n'est pas Salomon, puisqu'il détruit ce que Salomon a mis en place et qui était mauvais. Son exemple, c'est David. C'est ce qui est dit dans le premier texte biblique que nous avons lu. Josias a décidé de suivre l'exemple de David. Cette prise de conscience, il l'a eue à l'âge de 16 ans. Vous voyez quand même, pour nous, 16 ans, c'est un ado. Et à 16 ans, il a pris conscience de ça. Pourtant, il vivait dans un contexte corrompu. L'entourage était idolâtre, la plus grande partie de sa famille était idolâtre, immorale, mais il a été quand même capable de prendre un chemin qui était complètement différent. Alors on se questionne un peu, dire mais pourquoi ? Comment ça se fait qu'il va prendre un chemin différent alors que tout autour de lui était allé à l'encontre, était allé dans le sens contraire ? Et c'est tout à fait possible qu'il était sensible à la voix d'un membre de sa famille qui s'appelait Sophonie. Si vous lisez, si vous regardez dans le sommaire de la Bible, vous avez un livre qui s'appelle Sophonie. C'est un livre prophétique, ça a été un livre écrit par un prophète. Eh bien, il se trouve que prophète faisait partie de la famille royale. Et Sophonie, pardon, qui était prophète, faisait partie de la famille royale. Et quand on lit Sophonie, et on voit qu'il a critiqué l'injustice, il a critiqué l'idolâtrie. Il a dit vraiment tout ce que Israël est en train de faire, c'est mauvais, c'est pas bien. Et on sait aussi que le prophète Jérémie, il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Jérémie, que le prophète Jérémie a commencé à prophétiser quand Josias avait 20 ans. Donc ça veut dire que là, il y avait deux personnes dans l'entourage de Josias qui avaient un discours différent. Il y avait deux personnes qui se démarquaient du reste de sa famille, deux personnes qui se démarquaient du reste du peuple d'Israël. Et il avait trouvé des exemples, des gens qui eux-mêmes s'inspiraient de l'exemple de David. Et Josias va à son tour se démarquer. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des modèles. Et c'est vraiment le premier conseil que je vais vous donner et vous encourager. Ayez des modèles. Choisissez des modèles. Ayez des références spirituelles. Des personnes mûres qui soient pour vous inspirantes. Il y a quelque chose qui m'a toujours étonné et qui m'a toujours frappé dans le Nouveau Testament. C'est quand Paul appelle les chrétiens à être ses imitateurs. Je me dis, au début, quand je lisais ça, je me disais quand même, Paul... Et je l'ai déjà partagé avec vous, mais je redis parce que vraiment ça m'a étonné. Il dit, prenez exemple sur moi. On lit ça par exemple dans Philippiens chapitre 3 verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Prenez-moi comme référence. Parce que là, il avait cette assurance qu'il pouvait être inspirant pour les chrétiens de Philippe. On trouve ça dans Philippiens 3, 17. Il dit, prenez exemple sur moi, mais il y en a d'autres aussi hein, qui peuvent vous servir d'exemple. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais vous allez voir le nombre de fois où ça revient dans les lettres de Paul. Si on va un peu plus loin dans Philippiens, chapitre 4, verset 9, il dit encore, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 16, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Un truc, mais même moi, je n'oserais pas dire ça. Je vous en supplie, faites comme moi, prenez exemple sur moi, c'est fou. Et dans la même épître, c'est au chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ça, c'est un texte que je ne peux que lire dans la Bible, je ne peux pas dire ça. Mais qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que ça paraît normal de trouver des personnes qui nous servent d'exemple. On a tous des références, les uns et les autres. C'est obligé. On fonctionne tous comme ça. On a des membres dans notre famille là, qui nous servent d'exemple, qui pour nous peuvent être des modèles inspirants. On peut avoir des amis dans notre entourage, mais ça peut même aller bien au-delà de ça. Il y a des gens du showbiz, des stars du cinéma ou des stars de la chanson peuvent nous servir d'exemple. Et vous savez que ces personnes qui nous servent un peu de référence, elles influencent inévitablement notre façon de penser, notre façon de nous comporter, notre façon de nous habiller, etc., etc. Il y a quelques années en arrière, il y a un leader de jeunes qui m'avait raconté cette histoire. Ça remonte à des années en arrière. C'était au moment où Matrix était sorti au cinéma. Le premier Matrix. Vous avez vu Matrix? Et voyez comment le héros, Neo, vous voyez comment il est habillé avec son grand par-dessus noir. Il n'a pratiquement pas de cheveux, les lunettes noires. Et ce leader de jeunes m'avait raconté que un de ces jeunes, après être allé voir Matrix au cinéma, est revenu, il s'est arrivé à l'église habillé en Néo. C'est extraordinaire. Bon, ça, c'est le truc énorme. C'est vraiment le truc qui est gros. Mais ceci dit, on fonctionne tous comme ça. On est sous l'influence. Un vêtement qui nous plaît, on dit « Ah, on va avoir envie de ressembler. » Et ça fonctionne dans plein de domaines comme ça. Alors, plutôt que de subir l'influence de ces personnes, moi, je te dis, choisis la personne ou choisis les personnes qui vont t'influencer afin que tu puisses recevoir une bonne influence. Afin que tu puisses avoir sous les yeux de bons exemples, des gens qui vont là vraiment t'aider là au niveau sur le plan spirituel. L'exemple est puissant. Je vais vous montrer deux photos, deux portraits. Regardez. Le gars qui se trouve là à gauche, est-ce que vous savez qui c'est ? Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez me dire des ouvrages qu'il a écrits ? Voilà, très bien. C'est pas un film, hein, là-bas. C'est un livre. C'est Victor Hugo qui l'a écrit. D'autres livres ? Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous connaissez d'autres ? Je suis pas cultivée. Bon, généralement, Les Misérables et Notre-Dame de Paris, ce sont les plus connus. Ce sont des ouvrages que vous connaissez et ce sont des ouvrages qui sont mondialement connus, qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Parce que Victor Hugo, c'est l'un des personnages qui est certainement les plus connus, un Français parmi les plus connus. Et est-ce que vous connaissez le gars qui est à côté ? Il vous dit quelque chose ? Alors, si je vous dis qu'il a écrit un livre qui s'appelle... C'est un écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelle Atala. Atala, ça vous dit rien ? Il a écrit un autre livre qui s'appelle René. Non, pas René la taupe, René. Non, allez, un indice, peut-être que ça va vous mettre sur la voie. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Le génie du christianisme. Est-ce que les mémoires d'outre-tombe, ça vous dit quelque chose ? C'est l'auteur de ces livres-là, qui est François-René Chateaubriand. Victor Hugo a un jour dit, il voulait être un écrivain, il voulait faire une grande carrière littéraire. Et il a dit, je veux être Chateaubriand ou rien. Aujourd'hui, en 2013, tout le monde connaît Victor Hugo et plus personne ou presque ne connaît Chateaubriand. C'est ça la force de l'exemple. Et je pense que vraiment, si on choisit de bons exemples, là, on peut se laisser inspirer et ça nous tire vers le haut. C'est pour ça que c'est vraiment important là, d'avoir des gens qui nous tirent comme ça. Il ne faut pas qu'on ait des Salomon comme référence. Vous savez, Salomon, quelque part, il a fait des choses bien, mais il a fait aussi des choses qui étaient très mauvaises. Et ce n'est pas des Salomon qu'il nous faut. Il nous faut des David, des gens qui peut-être ont commis des erreurs, mais qui savent les regretter aussi. Des gens là qui nous montrent ce que, là, quand on a Dieu dans sa vie, ce qu'on peut connaître, ce qu'on peut vivre, des gens consacrés, des gens sérieux, des gens intègres, des gens qui soient de bons conseils, des gens spirituels, en fait. Donc choisissez vos exemples, de bons exemples, et ces personnes-là, elles vont vous inspirer, elles vont vous aider à trouver cette constance dans votre vie spirituelle. Si c'est quelqu'un qui a une vie de prière, vous allez voir que ça va vous tirer vers le haut pour la prière. Si c'est quelqu'un qui partage sa foi assez facilement, ça va vous tirer vers le haut pour partager votre foi. Et on le voit dans tous les domaines comme ça. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, faire des choix radicaux. Josias prend la décision de faire disparaître de son royaume tous les cultes immoraux dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous lisez le chapitre 23 du deuxième livre des rois, et je vous invite à le faire, après qu'on aura terminé cette réunion, quand vous serez chez vous, le chapitre 23, entre le verset 4 et le verset 15, c'est l'énumération de toutes les destructions que Josias a entreprises. Il a fait brûler hors de la ville tous les instruments du culte en l'honneur de Baal et d'Astarté, qui se trouvaient dans le temple, dont la statue d'Astarté, qu'il a fait brûler. Il a chassé tous les prêtres des idoles. Il a chassé les prostituées qui étaient aussi installées dans le temple. C'est ce qu'on apprend quand on lit ce chapitre. Il va détruire tous les hauts lieux. Et il détruit aussi l'autel en l'honneur de Moloch, qui était construit à côté de Jérusalem. Et on l'a lu, tous les autels qui étaient construits sur le mont des Oliviers, qui avaient été construits par Salomon. On a là toute l'énumération de tout ce que Josias a fait. Et la décision qui a été prise par Josias de détruire tous ces objets d'idolâtrie, elle a été radicale. Josias, il a bien compris qu'il ne pouvait pas faire les choses à moitié. Il était conscient qu'une demi-mesure pouvait provoquer un retour en arrière. Et c'est ce qui est arrivé avec les rois précédents. Je vous ai dit qu'il y avait quatre rois qui ont été fidèles. Des gens comme Joas ou des gens comme Ézéchias, ils avaient pris des mesures dans ce sens-là, mais ils avaient laissé subsister quand même ça et là des hauts lieux. Il y avait quand même des endroits où il y avait l'idolâtrie. Donc là, Josias, il prend une décision radicale et il prend la décision de détruire tout ce qui est un obstacle à la relation avec Dieu, tout ce qui va l'empêcher de grandir, tout ce qui risque d'entraver sa marche et la marche du peuple d'Israël avec Dieu. Et en tant que roi, cette décision, elle ne dépendait que de lui. Elle ne pouvait dépendre que de lui. C'est pareil. Et à ce titre-là, Josias, c'est vraiment un bon exemple. Si on veut grandir avec Dieu, il y a des choix radicaux à faire. Et la décision, elle ne dépend que de nous. Josias était souverain. Et bien nous avons des décisions souveraines à prendre sur nos existences et sur nos vies. Et seule notre volonté entre en jeu pour ça. Il y a des occupations qui prennent beaucoup, beaucoup de temps. On revient toujours à évoquer un peu les mêmes choses, mais soyons honnêtes, soyons sincères. Il y a des choses qui prennent du temps, il y a des choses qui ne te permettent pas de te poser. Alors c'est vrai, quelquefois on a l'impression qu'on n'a pas le temps de prier, on n'a pas trop le temps de lire la Bible, ou des fois même carrément de venir à l'église, mais si on fait un peu l'examen de nos occupations, si on fait un peu l'examen là, de ce qu'il y a dans notre vie, on peut s'apercevoir qu'il y a des choses qui nous prennent trop de temps. Et il n'y a personne d'autre que toi qui peut prendre la décision de moins regarder la télévision. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut prendre la décision de moins surfer sur le net, de moins jouer aux jeux vidéo, etc., etc. Là, je pourrais faire toute une énumération, mais c'est à toi de voir qu'est-ce qui peut prendre trop de place. Il y a vraiment des situations dans notre existence, dans notre vie chrétienne, où il faut qu'on fasse des choix radicaux. Tu sais, au niveau de tes fréquentations, c'est pareil. Tu sais que tu entretiens des fréquentations qui vont te mener à faire des bêtises. Tu sais que dans tes fréquentations, si ça va te mener à consommer de l'alcool ou à fumer. Là, c'est exactement le genre d'exemple où tu as un choix radical à faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument se couper de tout le monde et qu'on ne peut plus avoir d'amis en dehors de l'Église. Non, pas du tout, au contraire. Mais il y a des personnes, comme on disait tout à l'heure, elles ne vont pas t'influencer dans le bon sens. Et tu sais, tu as conscience que ça va aller dans le mauvais sens. Et il y a des moments où il y a des choix radicaux à faire. Tu sais qu'il y a certaines soirées auxquelles tu es invité, tu vas te retrouver dans des situations inconvenantes. Et bien là, il y a un choix radical à faire. C'est la même manière. C'est la mentalité de Josias là qu'il faut retrouver. Il y a des numéros de téléphone de gars ou de filles dans tes contacts sur ton téléphone. Et tu sais pourquoi tu as ces numéros. Et tu sais que si tu appelles, à quoi ça va finir? À quoi ça risque de finir? Et toi, là, tu as un choix radical à faire. Parce qu'en fin de compte, au bout du compte, ces fréquentations, elles ne vont pas te faire du bien. Et une relation qui te désintègre, au lieu de te rendre plus intègre, ce n'est pas une bonne relation. Et ça, il faut en être conscient. Et par rapport à ces relations désintégrantes, il y a des choix radicaux à faire. Tu vas entretenir des pensées saines, mais dans les favoris que tu as sur ton ordinateur, il y a des sites au contenu incorrect. Il y a un choix radical à faire. Tu loues ou tu regardes des films où la violence et la sexualité sont très présents. Et toi, Astarté et Moloch, quelque part, on retrouve ça, la violence et puis la sexualité. Tu sais que tu as un choix radical à faire parce qu'il faut arrêter d'aller. Tu as envie et tu veux plus alimenter ces choses-là, mais ça ne va pas venir tout seul. Ça va venir à partir du choix souverain que tu vas faire sur ton existence. Ça, c'est l'esprit radical de Josias. Il y a quelques années en arrière, c'est un exemple qui m'a toujours frappé. C'était bien avant que les gens aient Internet chez eux. Donc, je m'aperçois à chaque fois que je donne des exemples maintenant que le temps passe. Mais c'est pour vous dire, c'est quand même assez révélateur. Parce que si aujourd'hui, bon, il y a Internet, tu es tenté, tu peux débrancher Internet. Hop, tu enlèves la connexion, tu fermes ton ordinateur. OK. À l'époque, quand il n'y avait que la télévision, il y avait certaines émissions qui passaient tard le soir, qui n'étaient pas convenables. Et j'avais un ami, lui, qui était tenté à cause de ça. Et pour ne pas être tenté, ce qu'il avait fait, et il l'a fait plusieurs fois, il avait débranché sa télé, il avait pris sa télé, il l'avait remis dans le carton, et il avait rangé son carton, je ne sais plus, dans sa cave quelque part. Puis après, bon, quand il avait repris ses esprits, il reprenait sa télé. Mais je me dis, ça, c'est l'esprit de Josias. C'est des choix radicaux qu'à des moments, il faut savoir faire pour pouvoir grandir. Quand j'étais adolescent, bon, il y a eu une période dans mon adolescence où je me sentais vraiment, vraiment mal. Je me sentais un peu isolé, de plus en plus en décalage avec les gens qui m'entouraient. Et quand je rentrais du collège, ou quand je rentrais même du lycée, au début du lycée même, ce que je faisais, c'est que je fermais les volets dans la maison et je mettais mes disques. Alors, à l'époque, mes disques, oui. Oui, c'était des disques, des vinyles. Alors, je vous explique. Ouais, non, c'était des vinyles. Et moi, ce que j'écoutais à l'époque, beaucoup, c'était Cure. Vous connaissez pas, hein? Si. Ah, bah, tu connais, ouais. Cure, c'est vraiment un peu quand tu vois Robert Smith, ouais, la coiffure qu'il avait, il a été hirsute, il avait le teint blanc, il avait du rouge à lèvres, il était habillé en noir et il avait une musique que j'aimais beaucoup, mais qui inspirait le spleen, qui inspirait vraiment la dépression. Et c'est ce que je faisais. Je me sentais tellement mal que je me mettais dans le noir et je mettais Cure et puis d'autres musiques. Et j'alimentais ma dépression, j'alimentais mon mal-être. Et c'est bizarre, j'étais heureux quelque part d'alimenter mon mal-être. C'était un peu paradoxal. Et quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, bon évidemment, alors ma vie elle a changé, j'avais plus besoin là, de me réfugier comme ça dans le noir comme je le faisais. Mais j'étais vraiment accroché et à chaque fois que j'écoutais une musique de Cure, ça me rappelait ce que je vivais à ces moments-là. Et ça, je sentais l'influence que ça avait sur moi. Et donc c'est pour ça qu'un jour j'ai pris mes vinyles, j'avais tous les disques de Cure, hein. Je les ai tous pris et je les ai détruits, je les ai cassés. Il fallait que je fasse ce choix radical. Alors, on se comprend bien, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous brûliez tous vos disques et tous vos livres. Mais soyez conscient de l'influence que ces choses ont sur vous et voyez où ça vous conduit. Voyez où ça vous mène. Et si ça vous désintègre plutôt que là, ça vous rend plus intègre, eh bien, ça veut dire qu'il y a un choix radical à faire à ce moment-là. Et si je fais ça, je dois le faire non pas parce que je dois le faire, parce que ça, ce n'est pas une bonne démarche. Je vais le faire pour une raison morale ou pour une raison religieuse. Non, si je fais cela parce que je dois le faire, ce n'est pas une bonne démarche. Cela a un sens si je veux le faire. Et c'est ce qui me conduit à évoquer le dernier point qui est le plus important de tous. Ça, c'est le nœud. Le troisième point, c'est aimer Christ. Aimer Christ. Et j'aimerais qu'on se concentre pour terminer sur ce point-là. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, à ce que l'on pense habituellement, être chrétien, ça ne signifie pas être religieux. Noël nous l'a rappelé à la dernière réunion, et il a repassé la vidéo à Actival. Non, il ne faut pas qu'on assimile la vie chrétienne à une démarche religieuse. La vie chrétienne, ce n'est pas une série de commandements à appliquer. Être chrétien, c'est avoir une relation vivante avec Jésus-Christ. Tiens, Guillaume, tu veux bien nous accompagner ? Est-ce que vous vous souvenez de la signification du mot chrétien ? Qu'est-ce que ça veut dire, chrétien ? Alors, littéralement, c'est partisan de Christ. Ce n'est pas faux de traduire ça par disciple du Christ. C'est celui qui adhère à l'enseignement du Christ, à la personne du Christ. Si je suis disciple de Christ, si je suis chrétien, ça signifie que j'adopte la discipline de Christ. J'écoute ce qu'il a à me dire et dans la mesure du possible, là, je mets ma volonté pour pouvoir appliquer ce qu'il me dit. J'entends sa parole et sa parole, elle va trouver un écho dans mon cœur et ça va me conduire à vouloir mettre sa parole en pratique. Et il y a une question qu'il faut qu'on se pose. C'est pour quelle raison est-ce que je suis disciple de Christ. Quelle est la raison fondamentale qui fait que je suis chrétien, que je me déclare chrétien ou chrétienne? On peut donner plusieurs réponses à cette question-là. Est-ce que je suis chrétien parce que je sais que je vais être béni? Est-ce que je suis chrétien parce que je sais qu'en mettant Christ dans ma vie, je vais augmenter mes chances de réussir dans mes études, de trouver un bon boulot, de pouvoir trouver quelqu'un avec qui faire ma vie, etc., etc. Peut-être que là, vous avez des réponses différentes à donner à cette question. Mais la raison essentielle pour laquelle je suis chrétien, c'est que Christ s'est sacrifié pour que je sois sauvé. On l'entend, on le sait, intellectuellement, il n'y a pas de problème. Mais il est question d'aimer Christ. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il faut qu'on saisisse, qui soit logé là dans notre intelligence, mais c'est quelque chose qui doit passer vraiment dans la trame de notre vie et qui doit trouver un écho profond dans notre cœur. Christ s'est sacrifié pour que je sois sauvé. Mon péché, ma faute, m'empêchait d'accéder à Dieu. Mais parce que Christ est mort, je peux être pardonné. J'ai le pardon de mes fautes, et c'est parce que Christ est mort que Dieu me parle, que je peux entendre la voix de Dieu, que je peux recevoir une direction pour ma vie, que je peux recevoir une révélation qui va peut-être changer les choses. Parce que là, le fossé qu'il y avait entre moi et Dieu a été comblé par la mort de Christ. Parce qu'il a accompli. Là, Dieu peut me donner une parole d'encouragement parce qu'il n'y a plus rien qui me sépare de lui. Dieu peut répondre à mes prières parce que Jésus, grâce à la croix, il a rétabli la possibilité de cette relation avec Dieu. Ça, c'est la raison essentielle d'être chrétien. Il y a un geste que nous accomplissons dimanche après dimanche. Et comme tous les gestes que nous accomplissons régulièrement, ça peut devenir très facilement routinier. Et c'est le repas du Seigneur, ce qu'on appelle la Sainte Cène. Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles Jésus a institué le repas de Sainte Cène. Il a été institué pour que ses disciples se souviennent de ce que Jésus a accompli, de ce qu'il a fait. Et les uns et les autres, si nous sommes disciples, on a pris le baptême et on participe à ce repas. Le vin, c'est l'image de son sang qui a été versé. Et le pain, c'est l'image de son corps qui a été brisé, qui a été frappé, qui a été cloué. C'est pas rien quand même. Voilà le type de souffrance que Jésus a accepté de vivre, de subir, pour que moi, je puisse trouver cette relation avec Dieu. Pour que je puisse me confier, parler à Dieu, que Dieu m'entende et qu'il me réponde. Le pain et le vin, c'est la représentation de ce que Jésus a accepté de faire par amour pour moi. Il a renoncé à tout ce qu'il était, à son statut, là, pour pouvoir accomplir ça. Et plus je réalise cela, et plus j'aurai de disposition à prier. Plus je réalise l'amour de Christ, plus je réalise ce à quoi il a renoncé, plus je réalise son amour et plus j'aurai envie de lire la Bible. Plus j'aurai envie de faire sa volonté, plus j'aurai encore envie de passer du temps dans sa présence. C'est pour ça vraiment que la clé, c'est ça. Si on veut grandir, si on veut trouver plus de constance dans notre foi chrétienne, c'est de toujours plus réaliser ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Josias, il a commencé à réaliser qui est Dieu à l'âge de 16 ans. Mais il y a eu un déclic supplémentaire quand il a commencé à lire sérieusement la Bible, 10 ans plus tard, à l'âge de 26 ans. Il y avait tellement d'idolâtrie dans le royaume que les textes de la loi, qui étaient recopiés par les scribes, étaient justement peu recopiés et peu diffusés. Personne ne lisait la Bible. Et Josias a un jour donné l'ordre de réparer le temple, qui était dans un piteux état. Et c'est au cours des travaux que le grand prêtre, qui s'appelait Ilkija, a retrouvé un rouleau de la loi. Vous savez, c'était des rouleaux à l'époque. Le rouleau a été amené au palais, et on a lu le rouleau devant Josias. Et c'est ce qu'on lit dans 2 Rois 22, chapitre 11. Dès que le roi Josias eut entendu ce que contenait le livre de la loi, il fut si bouleversé qu'il déchira ses vêtements. Il convoqua le grand prêtre, Ilkija, et plusieurs de ses ministres, et il dit « Allez consulter le Seigneur pour moi et pour le peuple de Juda sur le contenu de ce livre qu'on vient de trouver. En effet, nos ancêtres n'ont pas obéi aux commandements qui y sont écrits, et par conséquent, la colère du Seigneur contre nous doit être très grande. » Il demande de consulter une prophétesse qui s'appelle Hulda pour être sûr d'avoir bien compris ce qui est dans la Bible. Et la prophétesse Hulda, elle confirme que Dieu est en colère parce que le peuple s'était détourné de lui. Mais Dieu, au travers de cette prophétesse, va aussi dire, au verset 18, « Vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter le Seigneur, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré les vêtements et que tu as tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi, j'ai entendu, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te laisserai mourir en paix. Tu seras déposé dans ta tombe sans avoir vu tous les malheurs dont je vais frapper Jérusalem. » La colère de Dieu devait frapper le peuple à cause de son péché. Et là, parce que Josias, il a déchiré ses vêtements, il a déchiré son cœur, il va obtenir le pardon de Dieu. Josias comprend l'amour et le pardon de Dieu au travers de ce qu'il a lu dans ce texte. Et vous avez vu, il est dit là, tu as entendu ces paroles qui sont dans la Bible ? Alors moi aussi, Dieu dit, moi aussi je t'ai entendu. Et à partir de ce moment-là, il va prendre la décision d'éliminer du royaume tous les lieux d'idolâtrie, comme on l'a vu tout à l'heure. Et quand on lit le texte, il est dit que Josias va faire célébrer la Pâque. Il a retrouvé le livre dans lequel est décrit la fête de Pâques, et il dit, on va faire comme ce qui est marqué dans la Bible. Et il va inviter tout le peuple d'Israël à une grande célébration, à fêter Pâques. Et vous savez que la fête de Pâques, qu'on vient juste de célébrer, c'est une fête où un agneau était sacrifié pour le pardon des péchés. Et l'agneau de Dieu, dans le Nouveau Testament, il nous a dit que c'est Jésus. C'est Jésus qui lui a offert, s'est offert en sacrifice pour qu'on puisse obtenir un pardon définitif, total. Pour qu'on ait le pardon de nos fautes et pour que la bénédiction de Dieu puisse reposer sur nos vies. Je pense que ça, vous l'avez déjà entendu et réentendu. Ça ressemble presque à une réunion d'évangélisation, ce que je suis en train de faire. Mais si je veux le répéter encore ce soir, c'est parce que c'est la raison essentielle pour laquelle on est disciple de Christ. C'est parce que Jésus, il a accompli ça pour chacun d'entre nous. J'ai la vie éternelle. Et je sais là que non seulement j'aurai des tas de ressources pour ma vie présente, mais je sais que cette relation que je suis en train de vivre avec Dieu, qui a été acquise pour moi par Christ, elle ne s'arrêtera jamais. Ce bonheur, cette joie que je connais, cet épanouissement que je trouve dans sa présence, comme on a tellement l'occasion le dimanche, le samedi soir, à Actival, ou même tout seul dans sa chambre, je sais que ce que je vis là, c'est ce qui annonce que je suis appelé à vivre pour toute l'éternité. Quand on a saisi ça, croyez-moi, ça nous tire toujours vers le haut. Toujours, toujours vers le haut. J'aimerais vraiment qu'on puisse se recueillir ce soir. Et cette invitation-là que je fais ce soir, c'est une invitation à nous rappeler ça. À nous rappeler l'amour de Dieu, l'amour de Christ. Si on réalise ces choses-là, ça va être beaucoup plus facile pour chacun d'entre nous de faire les choix qui sont nécessaires dans notre vie. Je vous ai donné quelques exemples de choix radicaux, mais vous savez peut-être qu'il y a certains d'entre nous ce soir qui sont dans la nécessité de faire des choix radicaux, qui n'ont pas réussi à le faire jusqu'ici. Et tu es conscient ou tu es consciente que parce que tu n'as pas encore fait ce choix, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin dans ta relation. Tu ne vas pas pouvoir aller plus loin dans ta vie avec Christ. Pourtant, c'est ton désir. Tu as envie là, de vivre autre chose, d'aller dans des profondeurs. Mais il y a un choix radical à faire. Et vraiment, que ce temps qu'on va passer devant le Seigneur, là, on va prendre juste quelques minutes. Mais j'aimerais que ce soit la possibilité pour les uns et les autres de faire ce pas supplémentaire. Prie aussi pour trouver un exemple, pour vraiment avoir un bon exemple. Là encore, si c'est un Salomon que tu as comme référence, si c'est un Salomon que tu as comme exemple, il faut que tu tires des conclusions. Si tu t'en rends compte, si tu vois que cet exemple-là, il te désintègre plutôt qu'il te rend plus intègre, là, il faut faire un choix aussi. Cherche un David. Cherche quelqu'un qui sera de bons conseils. Cherche quelqu'un là qui vraiment, dont la vie parlera. Comme Paul le disait, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, eh bien là, que ce soit pour vous des choses qui soient inspirantes. Que notre prière, ce soit ça ce soir aussi. Mets des David sur notre route. Donne-nous là de mettre notre volonté en œuvre pour que nous puissions regarder à des David, des gens qui nous inspireront, des gens qui nous tireront vers le haut, des gens qui seront pour nous des ressources, même des recours, parce qu'on pourra peut-être leur parler. On trouvera cette liberté, cette confiance. Et ça nous fera grandir. Et ce qui nous étreint, ce qui fait obstacle là à notre marche, eh bien ces choses-là, elles vont être mises de côté, elles vont disparaître. On peut prier ensemble. Seigneur, Seigneur, sois avec nous ce soir, s'il te plaît. Donne-nous, Seigneur, par-dessus toute chose, de réaliser ton amour, la profondeur de ton amour. Seigneur, ça, à aucun prix, on veut le banaliser. Seigneur Dieu, on s'est engagé avec toi parce que Seigneur, tu t'es d'abord engagé avec nous. C'est toi qui es venu nous chercher, tu nous as parlé. Je te remercie Seigneur Dieu parce que tu nous tires là, de là où on était. Merci Seigneur Dieu pour ce que Josiane et Jasmine ont partagé avec nous. Parce que tu peux venir nous chercher très loin. Et Seigneur, c'est tellement merveilleux de voir là où tu nous amènes. Et si ça c'est possible, c'est parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et cet amour, tu l'as manifesté pleinement en mourant à la croix. Alors on veut apprendre à t'aimer en retour. On veut qu'il n'y ait rien dans notre cœur qui nous empêche de vivre et de réaliser cet amour. Seigneur, je te prie pour que tu nous remplisses de ton esprit, Seigneur, et que tu te répandes cet amour dans nos cœurs. Qu'on puisse être tes disciples parce qu'on t'aime. Qu'on puisse être tes partisans parce qu'on t'aime. On veut s'engager avec toi par amour. On veut faire des choix par amour, pas par devoir. Pas par religion, Seigneur Dieu, mais parce qu'on a cette relation vivante avec toi, dans laquelle on trouve tellement de choses. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes grâces. Merci pour ton action dans nos vies, Seigneur. Mais par-dessus tout, merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. On va rester dans le recueillement.